des sciences.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et l'on ouvre ce journal sur cette conférence de presse retransmise en live et en grande pompe dans le monde entier hier à 19h heure de Paris. Conférence commune de la NASA et de Google qui annonce avoir découvert deux nouvelles exoplanètes et ont mis l'accent en particulier sur l'une d'entre elles, Kepler-90i, huitième planète de son système, située dans la zone habitable de son étoile, étoile qui s'appelle Kepler-90, une naine jaune située à plus de 2500 années-lumière dans la constellation du Dragon. Une découverte réalisée par les équipes de Google en appliquant les algorithmes d'apprentissage machine, machine learning, développé par le géant américain, aux données collectées par le télescope spatial Kepler. J'ai demandé à Michel Vizeau, responsable de l'exobiologie au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, ce qu'il avait retenu, lui, de cette annonce.
Dans l'annonce qui a été faite par la NASA, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, qui est plus anecdotique, c'est le fait que l'on ait découvert maintenant un système planétaire avec 8 planètes, c'est-à-dire le même nombre de planètes que notre système solaire. Mais le plus intéressant et la raison essentielle de cette communication de la NASA était la méthode utilisée, c'est-à-dire la méthode de l'intelligence artificielle et plus précisément des systèmes neuronaux. Ce qui est intéressant, c'est que Kepler a fourni une quantité énorme de données, puisque ça a observé pendant 3 ans et demi 150 000 étoiles. À raison d'une donnée toutes les 30 minutes à peu près. Dessus, ils ont identifié 15 000 étoiles candidates avec des planètes et ils en ont publié à peu près 2500 qui ont été confirmées comme étant des étoiles possédant des planètes. Mais ils s'intéressaient bien entendu aux signaux les plus évidents. L'utilisation de l'intelligence artificielle a permis d'identifier des signaux extrêmement faibles dispersés dans un bruit lumineux extrêmement important. Pour l'instant, on est à 3700 planètes environ identifiées. Avec cela, donc, on va arriver à en découvrir encore de nombreuses nouvelles et on augmente cette zoologie des exoplanètes. Et cette zoologie des exoplanètes, elle nous informe sur trois choses différentes. Premièrement, comment se forment les systèmes solaires et est-ce que notre système solaire est commun ou est-ce qu'il est exceptionnel ? Il semble qu'il soit relativement commun, en fait, maintenant. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des planètes dans ce qu'on appelle la zone habitable ? Et est-ce que ces planètes, enfin, sont des cibles potentielles pour rechercher à identifier si elles ont une atmosphère et bien sûr si cette atmosphère peut nous donner des signes quelconques d'une activité biologique à un moment ou à un autre.
Michel Vizeau du CNES, enthousiasmé donc par les perspectives que laisse espérer l'intelligence artificielle en matière de rapidité d'analyse des données, car il faut dire que les projets qui, à l'instar de Kepler, vont générer des masses de données immenses, sont déjà nombreux et qu'ils vont se multiplier, y compris au niveau européen. La mission Gaïa est déjà concernée, le télescope spatial Kéops, qui doit être placé en orbite dans les semaines qui viennent, ou l'observatoire spatial Plato, qui doit être opérationnel en 2024, eux aussi vont multiplier les données. Alors quel rôle va jouer un géant comme Google ? Certes, ces algorithmes sont dans le domaine public, tous les scientifiques peuvent théoriquement s'en emparer, mais l'annonce faite hier en grande pompe dit quelque chose des temps qui viennent pour l'astronome Vincent Coudet de Foresto qui travaille à l'observatoire de Meudon.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on utilise des méthodes qu'on appelle de machine learning ou d'intelligence artificielle pour l'analyse de données astronomiques. Et ça se fait complètement en dehors du cadre de Google. Je connais d'autres domaines dans lesquels ça se fait. Pour être honnête, j'ai été un petit peu surpris par le manque d'envergure scientifique, on va dire, de la découverte par rapport au fait qu'il y a une grande conférence de presse plénière de la NASA. Et moi, j'interprète ça comme le fait qu'il y a plutôt un message subliminal dans la conférence de presse. Ce n'est pas tant le fait qu'on ait découvert une planète de plus ou deux planètes de plus, ce qui se produit pratiquement toutes les semaines, mais plus dans le fait qu'il y a une association entre la NASA et puis une société privée. Pour Google, il y a d'une part peut-être un enjeu d'image, mais ils y trouvent aussi leur intérêt dans la mesure où ça leur permet probablement de tester leurs algorithmes sur des jeux de données intéressants d'un point de vue scientifique. C'est pas la première fois qu'une société privée se fait ce genre de choses. Tant qu'on est dans cette association-là et que cette association, ce mécénat finalement sous forme de matière grise ou de main-d'œuvre, ce mécénat apporte un plus à la recherche, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Évidemment, le risque, c'est que cela pousse l'État à se désengager de la recherche publique en disant ben, finalement, ce n'est pas très grave, puisque tout cela sera repris en main par des sociétés privées. Et donc, c'est là où il faut être extrêmement vigilant.
Et en bref, le président américain Donald Trump a signé lundi la Space Policy Directive, One Directive sur la politique spatiale, avec un but. Les astronautes américains vont retourner sur la Lune afin de préparer une mission vers Mars. Je rappelle que la dernière fois qu'un homme a foulé le sol lunaire, c'était il y a 45 ans, en 1972. Et pendant ce temps, l'Europe s'affranchit un peu plus des GPS américains. Ce mardi, à 19h36, heure de Paris précisément, une fusée Ariane 5 a décollé depuis le centre spatial guyanais pour mettre sur orbite 4 nouveaux satellites de la constellation Galiléo, mission réalisée pour la Commission européenne et qui a pour objectif d'offrir une alternative au système existant, à savoir le GPS américain, le GLONASS russe, le Beidou Compass chinois, pour garantir l'autonomie de l'Union européenne dans le domaine de la radionavigation. Et on passe à notre deuxième sujet consacré aux thylacines, surnommées tigres de Tasmanie, qui n'a rien d'un tigre ni d'un loup. Ce marsupial carnivore, très proche du chien, en dépit du fait qu'ils ne sont pas du tout de la même branche de mammifères, s'est éteint en 1936 sur l'île de Tasmanie, après avoir été exterminé par les colons européens qui craignaient pour leurs troupeaux. Mais il se serait probablement éteint de toute façon. C'est en tout cas ce que conclut le microbiologiste Andrew Task de l'université de Melbourne, qui a séquencé le génome du thylacine à partir d'un spécimen conservé depuis 108 ans dans du formol au musée Victoria, génome qui s'est révélé très édifiant.
Ce qui nous intéressait tout d'abord, c'était de mieux comprendre la structure de la population du tigre de Tasmanie à travers ce génome. Nous n'avions aucune idée de comment cette population avait pu évoluer, puisque dès notre installation, nous les Européens les avons immédiatement exterminés. Et ce que nous avons découvert, c'est que la population du thylacine a décliné drastiquement il y a peu ou prou 70 000 ans, donc beaucoup, beaucoup plus tôt dans l'histoire que nous ne le pensions.
Because we really thought that the population became very isolated once it got blocked away onto Tasmania. So once that land bridge closed between the mainland and Tasmania.
Nous étions certains jusque-là que c'était l'arrivée des premiers hommes en Australie et leur confinement sur l'île de Tasmanie qui les avait affaiblis. Or, on s'aperçoit là que leur population avait atteint un seuil critique bien avant cela. Certes, l'arrivée des premiers hommes sur le continent, puis des Européens, ont précipité leur extinction, mais ils n'étaient déjà plus du tout en bonne santé génétique. Par ailleurs, quand on voit deux espèces converger significativement, c'est-à-dire évoluer parallèlement jusqu'à devenir très similaires, comme c'est le cas pour le thylacine et le chien, la question clé c'est est-ce que cette similarité se voit dans le génome ? On a donc comparé tous les gènes qui codent la production de protéines chez les chiens et chez les thylacines, et il est apparu qu'ils partagent plusieurs gènes, mais bien moins qu'on ne le pensait, en tout cas pas assez pour expliquer leur grande ressemblance. Donc cela laisse penser que ces gènes qui codent la protéine ne jouent qu'un rôle assez mineur dans les instructions que donne le génome, quand il s'agit de développer la morphologie d'une espèce, et que c'est l'environnement qui est déterminant pour en quelque sorte activer ou désactiver les gènes au cours de l'évolution.
Et en bref, une équipe internationale de chercheurs réunie au sein du consortium européen ZIC Alliance a identifié pour la première fois le mécanisme responsable de la microcéphalie des fœtus qui naissent de femmes enceintes infectées par le virus Zika. Ils mettent en évidence que le virus infecte non seulement les souches neuronales du fœtus, mais aussi les cellules neuronales générées. Après infection, Zika envoie de faux signaux à la cellule, qui croit alors que les protéines qu'elle synthétise pour son bon fonctionnement ont été incorrectement formées. Ces faux signaux reçus comme vrai, favorise le suicide de la cellule. Et dans notre rubrique Science improbable, cette étude publiée dans Nature Communication qui ressemble à s'y méprendre à la base du scénario de Jurassic Park. En effet, une équipe de chercheurs espagnols a découvert en Birmanie 4 tiques parfaitement conservées dans de l'ambre vieille de 99 millions d'années. Parmi ces 4 parasites surgis du passé de la famille des tiques terribles de Dracula, l'une était gorgée de sang, l'autre avait une patte enchâssée dans une plume de dinosaure, forcément. Cette dernière est la représentante d'une espèce qui s'est éteinte, qui mesurait 1 mm et avait 8 pattes, mais pas d'œil. Alors trembler, évidemment, cette découverte fait penser au film Jurassic Park, dans lequel les chercheurs découvrent de l'ADN de dinosaures dans un moustique fossilisé dans de l'ambre. Mais ça ne sera pas pour cette fois, puisque toutes les tentatives pour extraire de l'ADN des échantillons d'ambre se sont révélées jusqu'ici infructueuses.